Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Dieu pardonne toutes les offenses. Le roi David écrit, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » Le prophète Ésaïe nous rapporte les paroles de l'Éternel qui annonce, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Cependant, le Christ déclare qu'un blasphème ne sera pas pardonné. Quel est ce blasphème ? Nous devons le connaître si nous voulons éviter de tomber dans son piège. Je tiens à vous rappeler que le péché est la transgression de la loi et que Dieu est le législateur. L'apôtre Jean a écrit « Si nous, nous qui prétendons être chrétiens, qui affirmons être les véritables disciples du Christ, disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Jean ne parle pas des péchés passés commis avant la repentance, lors d'une époque où l'on vivait en transgressant les commandements et la loi. Ces péchés anciens sont déjà pardonnés, effacés complètement, et Dieu ne veut plus s'en souvenir, pour autant que nous nous en soyons sincèrement repentis. Dans ce passage, Jean parle au temps présent du Verbe. Il s'adresse à ceux qu'il considère être ses petits-enfants, ceux qu'il sait être des bien-aimés de Dieu, et il leur dit « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, s'il transgresse la loi par accident, sans préméditation, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, ceux que nous pourrions commettre aujourd'hui, mais aussi pour ceux du monde entier. » L'apôtre Paul a lutté contre le péché. Il en est sorti vainqueur, comme il l'affirme à la fin de sa vie. Cependant, après avoir écrit « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés », il ajoute « Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là. » Cette déclaration de l'apôtre Paul annule les affirmations de certains prédicateurs qui affirment que la loi divine est mauvaise, qu'elle n'est qu'un fardeau que le Christ s'est empressé de clouer sur la croix, ce qui est contraire aux écrits de l'apôtre Paul dans son épître aux Colossiens. Cet apôtre ajoute « Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise, ou le péché de convoitise, si la loi nous dit « Tu ne convoiteras point ». La loi est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Le monde chrétien moderne s'est empêtré dans divers enseignements qui tordent les Écritures. C'est ainsi qu'on affirme qu'il est impossible de mener une vie juste. Voilà pourquoi, dit-on, le Christ l'aurait mené à notre place. On dit encore que le Christ serait venu pour abolir la loi, alors qu'il affirme le contraire. En fait, ces gens cherchent des excuses pour ne pas se soumettre à la volonté de Dieu. L'apôtre Jude a écrit « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Comment peut-on changer la grâce de Dieu en dissolution, c'est-à-dire en corruption, en affirmant que « Puisque la loi est abolie, elle n'existe plus. Par de tels discours, on en autorise la transgression. On prétend qu'elle est sans importance, puisque maintenant nous nous trouvons tous sous la grâce, alors que les Écritures prouvent que Dieu ne graciera pas celui qui continue à vivre dans le péché. En prétendant que le Christ est venu pour abolir la loi, il le renie. Dieu ne nous permet pas de décider ce qu'est le péché, car de lui-même, l'homme est incapable de le savoir exactement. Mais la loi divine le révèle, et en observant cette loi, l'homme écarte le péché de sa vie. C'est un choix personnel. Dieu n'impose rien, il laisse à chacun son libre arbitre, tout en lui révélant sa volonté par l'intermédiaire de sa parole inspirée. L'apôtre Jean explique comment le chrétien peut déterminer si, oui ou non, il est disciple du Christ. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu, je suis son disciple, je suis chrétien » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Les prédicateurs qui enseignent que la loi est abolie, qu'elle n'est qu'un joug pour le chrétien, ignore ce passage qui les condamne. L'apôtre Jean poursuit. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Qu'est-ce que l'amour de Dieu? Jean répond plus loin. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Le péché est la transgression de la loi divine. L'homme est naturellement hostile à cette loi car son esprit éprouve du ressentiment envers toute autorité placée sur lui. Lorsqu'une personne se repent de ses péchés, lorsqu'elle éprouve un changement d'esprit et d'attitude à l'égard du péché et reconnaît le Christ comme son sauveur, tant pour ses transgressions passées que pour toutes celles qu'elle commettra plus tard involontairement, Dieu promet de lui donner son Saint-Esprit. Cette personne est alors convertie et commence à marcher dans le chemin étroit qui mène au salut, qui aboutit à la vie éternelle. C'est là le but de la vie. Le salut signifie naître dans le royaume de Dieu, passer de l'état mortel à celui qui est immortel. Tant que l'Esprit de Dieu réside dans le chrétien, celui-ci reste sur le chemin de la vie éternelle. Il peut occasionnellement trébucher et tomber, mais il doit absolument se relever, se détourner du péché et poursuivre dans le chemin étroit. Ainsi, il ne commettra pas le péché impardonnable. Par contre, lorsqu'une personne ayant reçu le Saint-Esprit se détourne volontairement de la voie divine, s'écarte volontairement du chemin étroit qui mène au royaume de Dieu, pour suivre intentionnellement la voie du péché, elle pêche alors d'une façon préméditée et délibérée. Elle risque de commettre le péché impardonnable. Si elle choisit volontairement la rébellion, dédaigne et rejette volontairement la loi de Dieu, elle outrage ou est sur le point d'outrager le Saint-Esprit que Dieu lui avait donné par la grâce. Lorsqu'une personne quitte volontairement la voie divine, l'Esprit de Dieu l'abandonne et cette personne risque alors de commettre le péché impardonnable car elle ne voudra peut-être plus se repentir sincèrement et profondément. Mais quiconque se repent et recherche de tout son cœur Jésus-Christ peut revenir sur la bonne voie et obtenir le pardon. Souvenez-vous de l'exemple d'Ésaü, duquel il est écrit « Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Il était trop tard, le droit d'aînesse avait déjà été confirmé en faveur de Jacob. Il y eut également le cas de Judas, qui, rapportant les 30 pièces d'argent au sacrificateur, dit « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde ». Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Revenons maintenant au récit qui amena Jésus à parler du blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que les pharisiens voulaient faire croire que la puissance du Saint-Esprit, dont le Christ se servait, était celle des démons. On lui amena un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait « N'est-ce point là le fils de David ?» Autrement dit, n'est-ce point là le Messie attendu? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » L'apôtre Marc rapporte quelques détails complémentaires sur cet événement. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « Il est possédé de Béelzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela, leur donna une parabole et ajouta « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Jésus parla ainsi parce qu'il disait « Il est possédé d'un esprit impur. » Ces pharisiens et ces scribes savaient pertinemment bien que leur accusation était sans aucun fondement. Nicodème, un chef des Juifs, donc un docteur de la loi, n'avait-il pas été auprès de Jésus de nuit pour lui dire « Rabbi » ou « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » L'intention des scribes et des pharisiens était bel et bien de faire périr le Christ. Matthieu rapporte, « Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. En attendant, il tentait de le discréditer aux yeux de la foule qui commençait à le considérer comme le fils de David, comme le Messie annoncé. Blasphémé contre le Saint-Esprit. Le mot grec original sous-entend un affront ou un outrage intentionnel. N'importe qui peut prononcer une parole sans connaître tous les faits, ou sous le coup de la colère, de l'émotion, et cela sans réfléchir. Mais ce n'était pas le cas pour les pharisiens et les scribes, dont il est question ici. Ces religieux savaient que leur accusation était fausse, qu'elle ne correspondait pas à la réalité. Leur blasphème était délibéré, prémédité et intentionnel. Leur but était de détruire le Christ. Ce péché fut commis par des gens non convertis. Jésus a déclaré qu'aucun péché n'est impardonnable. Cependant, une offense, une fausse accusation faite de façon intentionnelle, délibérée et avec préméditation contre le Saint-Esprit, est impardonnable. Dans le cas que nous examinons, ces gens savaient que la puissance que Jésus utilisait était loin d'être celle de Béelzébul, mais bien celle de Dieu. L'apôtre Paul écrit, « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, et c'était le cas des scribes et des pharisiens qui savaient que c'était par le Saint-Esprit de Dieu que le Christ agissait et non par Béelzébul, prince des démons. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé, méprisé, transgressé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang d'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce ?» L'apôtre Paul a écrit encore, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont reçu la grâce de Dieu, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés ou retombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu, l'expose à l'ignominie. C'est Dieu qui accorde la repentance, mais il ne force personne à se repentir. Si un individu ne veut pas se repentir, s'il en a perdu toute envie, alors il est tombé. Dans ces deux passages de l'Épître aux Hébreux, il n'est point question de ceux qui n'ont jamais été convertis, mais uniquement de ceux qui l'ont été. Lorsque quelqu'un désire se repentir réellement, profondément, s'il veut changer sa façon de vivre, s'il veut vraiment obtenir la grâce divine, il le peut. Dieu, dans sa miséricorde et son immense amour, lui pardonnera. Voyons ce que l'apôtre Jacques écrit. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. »